Europe Soir, Julien Bugier.
Je vous demande de vous arrêter.
Je suis très en colère.
Écoutez, vous êtes rapide. C'est pour ça que vous êtes coupé de la réalité.
Avec d'abord la carte blanche du Club des Idées, un coup de griffe ou un coup de cœur sans détour. Et ce soir, comme chaque lundi, j'ai le plaisir d'accueillir l'écrivain et essayiste Philippe Besson. Bonsoir Philippe.
Bonsoir.
Alors ce soir, mon cher Philippe, c'est un coup de griffe que vous donnez à l'ensemble de la classe politique qui, selon vous, ne s'est pas montrée à la hauteur après l'attentat terroriste de Conflans-Sainte-Honorine qui a coûté la vie au professeur Samuel Paty.
Oui, Julien, on rêvait de dignité, de retenue, de décence. On rêvait, pourquoi pas, de concorde républicaine, d'union nationale, de combat commun. Ben, on a eu droit à une cacophonie, à une surenchère d'idées creuses dont certaines au relent raciste, à un concours lépine de propositions baroques et à un parfait exemple de tambouille politicienne. D'ailleurs, comme dans un réflexe pavlovien, l'opposition a immédiatement tiré à boulets rouges contre le gouvernement.
Est-ce que pour vous, cher Philippe Besson, c'est parce que le gouvernement, justement, n'a pas été à la hauteur?
Il est certain qu'Emmanuel Macron a mis beaucoup de temps, beaucoup trop de temps, avant de se saisir de la question de l'islam radical. Son discours sur le séparatisme date seulement du 2 octobre dernier, alors qu'il a quand même été élu il y a 3 ans et demi. Reconnaissons néanmoins que cette majorité a voté plusieurs lois, notamment celle renforçant la sécurité intérieure et la lutte contre le terrorisme en 2017, ou la loi Avia, qui visait à lutter contre les contenus haineux sur les réseaux sociaux et qui, hélas, a été censuré par le Conseil constitutionnel. Par ailleurs, le renseignement s'est vu doté de nouveaux moyens, de nombreux attentats ont été déjoués. Enfin, à l'évidence, c'est insuffisant.
Alors justement, les Républicains ne sont pas restés inertes, ils ont proposé une batterie de mesures, comme souvent dans ce cas de figure-là, une épreuve de laïcité au brevet, un numéro vert d'urgence pour les enseignants, l'expulsion d'étrangers radicalisés et la fermeture des mosquées qui est un peu l'arlésienne.
Oui, absolument. Alors, on est quand même dans le gadget avec cette histoire de brevet, on est loin du compte aussi avec celle du numéro vert. Quant au lieu de radicalisation, LR semble occulter que 350 d'entre eux ont été fermés depuis 2018. Et on sait que les expulsions sont compliquées car elles nécessitent l'accord du pays d'origine qui répugne évidemment à le donner. Cela étant, Xavier Bertrand est même allé plus loin. Il réclame un référendum sur la laïcité. Quoi de mieux pour diviser les Français, je vous le demande. Il veut aussi des changements constitutionnels. Lui qui se prétend gaulliste, on marche sur la tête.
Et Marine Le Pen, quand elle réclame une législation de guerre contre le terrorisme, vous trouvez qu'elle a tort ?
Elle oublie juste qu'un parquet national antiterroriste existe déjà et que depuis 2015, nous n'avons cessé de multiplier les régimes d'exception et les états d'urgence. Et qu'elle a systématiquement voté contre toutes les lois sécuritaires. C'est difficile dans ce cas de venir faire la leçon.
Mais Philippe, elle demande également une commission d'enquête parlementaire pour faire la lumière, comme on dit dans ces cas-là, sur les responsabilités.
Oui, alors sauf que les Français se fichent complètement de savoir qu'on va peut-être réunir un comité théodule, un machin partisan qui rendra ses conclusions dans des mois. Proposition dont personne ne tiendra compte, comme d'habitude. La seule enquête qui importe, pour l'heure, c'est l'enquête judiciaire, celle qui identifie les coupables, leurs complices, et permettra qu'ils soient déférés devant un tribunal.
Et la France insoumise dans tout ça ?
Alors la France insoumise, elle s'illustre par son absence de proposition. Il faut dire que Jean-Luc Mélenchon était occupé à stigmatiser l'ensemble de la communauté tchétchène avec un léger fumet raciste qui n'aura échappé à personne.
Il s'en est excusé par la suite.
Oui, il a bien fait. Il aurait mieux fait de ne pas faire la bêtise au début. Tout ça pour ne pas nommer le problème et faire oublier sa participation à une manifestation qui était organisée, on s'en souvient, par des collectifs représentant l'islam politique. Du reste, Manuel Valls l'a accusé d'avoir sa part de responsabilité dans la lâcheté d'une partie de la gauche, ambiance. Ce qui est sûr, c'est que de ce côté-là de l'échiquier, la liste des dénis et des accommodements est assez longue.
En conclusion, mon cher Philippe Besson, vous êtes optimiste ?
Pas vraiment. De ce point de vue, d'ailleurs, je suis à l'unisson d'une majorité de Français qui considèrent, selon BVA, qu'aucun responsable politique n'est crédible pour lutter contre le terrorisme. Mais rappelons qu'on a aussi la classe politique qu'on mérite. Il nous revient donc à tous de balayer devant notre porte et de faire bloc. Ce serait déjà ça.
Vous aimez bien le rappeler, ça. On a la classe politique que l'on mérite, mais vous avez raison de le dire. Merci Philippe Besson, la carte blanche du Club des Idées, c'est tous les jours à partir de 19h15.
Europe 1, Julien Bugier.
Vous restez avec nous dans quelques secondes. Le débat du Club des Idées, ce soir, la Turquie et le monde arabe en débat. Suite aux appels au boycott des produits français, c'est notre modèle de liberté d'expression qui est attaqué. On en parle avec nos invités, à tout de suite.
Europe Soir, le 18-20, Julien Bugier.
19h24, on se retrouve dans Europe Soir avec le débat du Club des Idées. Et ce soir, on s'intéresse à cette fronde anti-laïcité, anti-blasphème qui monte dans les pays musulmans. La Turquie annonce aujourd'hui un boycott des produits français après déjà le Qatar, après le Koweït. Le président Erdogan ose même comparer le traitement des musulmans d'Europe à celui des juifs avant la Seconde Guerre mondiale. Même le Maroc, pays modéré, pays ami de la France, dit condamner la publication des caricatures de Charlie. Alors comment interpréter cette poussée de fièvre anti-française et quel impact sur nos relations avec le monde arabe dans son ensemble? On en parle ce soir avec nos invités. Nicolas Beau, bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes rédacteur en chef à Monde Afrique, auteur de « Cet ami qui nous veut du mal, le vilain petit Qatar », sorti aux éditions Fayard en 2013. On en parle parle également avec François Hesbourg. Bonsoir. Bonsoir, vous êtes conseiller spécial de la Fondation pour la recherche stratégique et on en parle avec Frédéric Ancel, maître de conférence à Sciences Po Paris et auteur des 100 mots de la guerre aux éditions PUF. Bonsoir Frédéric.
Bonsoir.
Rappelons peut-être en préambule que ce mouvement anti-français fait suite au discours d'Emmanuel Macron en hommage à Samuel Paty, le professeur décapité, qui a rappelé, le président français, l'attachement de notre pays au droit à la liberté d'expression et au droit au blasphème. Eh bien, voici ce que lui répond aujourd'hui le président Erdogan.
Je m'adresse à ma nation. Tout comme en France, certains disent « N'achetez pas de marque turque ». Je m'adresse ici et maintenant à ma nation. Surtout, ne prêtez pas attention aux marques françaises. Ne les achetez pas.
Voilà, ce sont des déclarations très fortes, évidemment, qui visent la France et aussi le président Macron. Alors, c'est un mouvement qui rappelle celui qui avait frappé le Danemark après la publication à l'automne 2005 de caricatures de Mahomet dans un journal. Mais pour la France, Frédéric Ancel, pour la France, c'est inédit ce mouvement de boycott ?
Oui, c'est inédit. Et en même temps, pour l'instant, on n'a pas affaire à un phénomène massif. Vous avez évoqué un certain nombre d'États. Alors c'est vrai que le président Erdogan, qui d'ailleurs n'en est pas à sa première bordée d'injures vis-à-vis d'Emmanuel Macron quand même, lui, écoutez, il a une situation sociale, économique et géopolitique d'ailleurs, interne, mauvaise, voire désastreuse sur le plan économique. Il a perdu l'an dernier aux élections municipales les deux principales villes de Turquie, Ankara et Istanbul. Manifestement, les enquêtes d'opinion lui sont moins favorable qu'auparavant, donc il en fait tenter plus. Et, oui. Et au fond, de ce point de vue-là, Monsieur Macron est une espèce de punching ball extrêmement, extrêmement commode. Maintenant, pour le reste, écoutez, vous avez cité le Qatar, c'est vrai. Alors, je rappelle que le Qatar est fort de 300 000 citoyens et de 2 millions de gens, asiatiques essentiellement, qui travaillent dans des conditions absolument épouvantables. Le Koweït est un petit État, là aussi, qui n'achète pas grand-chose à la France, qui ne vend rien à la France, sauf un tout petit peu de pétrole encore, et qui achète surtout des armes. Et le Koweït ne va pas, rassurez-vous, ne va pas boycotter des armes. Le Qatar ne va pas boycotter des chasseurs-bombardiers Rafale. Donc pardon, dernier point, le Maroc. Vous avez cité le Maroc. C'est un pays très intéressant. Je le dis d'une phrase. Le Maroc est un pays allié et à certains amis et à certains égards alliés de la France, notamment en termes de renseignement. Bon. Le Maroc n'appelle pas à boycotter les produits français.
Non,
le Maroc,
mais son ministre des Affaires étrangères condamne la position française. C'est quand même une prise de position qui interpelle.
Vous avez raison, mais c'était déjà le cas à l'époque des premières caricatures de Mahomet. Oui. Et le Maroc, comme la plupart, pas tous, mais la plupart des autres pays musulmans, est un pays conservateur qui a parfaitement le droit de se dire choqué par telle ou telle politique. Alors, mais on n'appelle pas à des sanctions.
Peut-on parler, François Hesbourg, d'un mouvement coordonné d'une certaine manière du monde musulman, ou en tout cas des pays qu'on a évoqués ?
Non, c'est un mouvement concurrentiel.
Concurrentiel.
Vous avez d'un côté, j'allais dire, les amis des frères musulmans, c'est-à-dire l'islam politique, ça c'est Erdogan, c'est le Qatar, et de l'autre côté, vous avez tous les autres, si je puis dire, tous les autres sunnites. Et il y a une concurrence qui, pour tenter de capter dans l'opinion, pour avoir la meilleure image, par rapport au vilaini que Charlie ou d'autres ont pu dessiner.
Mais on sent poindre quand même derrière tout ça une fracture identitaire, sans doute instrumentalisée par certains groupes et par certains dirigeants. Mais est-ce que ça n'est pas inquiétant, ça, de jouer le monde musulman contre l'Occident ?
Oui, c'est un monde musulman qui se joue d'abord contre lui-même.
Oui.
Erdogan veut se placer avec ses amis du Qatar, et comme étant celui qui est le plus à même de défendre l'Oumma, la communauté des croyants, ses intérêts, contre les horribles salafistes, saoudiens, émiriens, et ainsi de suite. C'est dans la sphère idéologique le pendant de ce qui se passe sur le terrain, par exemple en Libye, où vous avez effectivement d'un côté les émiriens et les égyptiens qui se battent par personne interposée, avec les Turcs et les Qataris.
Vous restez avec nous, Nicolas Beau donnera son avis dans quelques secondes. A tout de suite avec le débat du Club des Idées.
Europe Soir, le 18-20, Julien Bugier.
19h32, on est toujours ensemble dans le débat du Club des Idées. Ce soir, on s'intéresse à cette fronde contre la liberté d'expression qui monte dans certains pays musulmans, la Turquie notamment, avec les propos du président Erdogan. On est toujours avec Nicolas Beau, rédacteur en chef à Monde Afrique, auteur de « Cet ami qui nous veut du mal », « Le vilain petit Qatar ». Nicolas, votre réaction d'abord à ce qui a été dit juste avant la pause. Et puis, question directe que tout le monde se pose ce soir, y a-t-il une volonté, notamment de la part du président Erdogan, de faire une forme d'entrisme politique et de déstabiliser, aller, la démocratie française et notre modèle ?
Non, ça, je ne crois pas du tout. Dans la forme, évidemment, on ne peut que condamner les propos d'Erdogan, qui sont ordurier, bon, de la part d'un homme autocratique, mégalo. Bon, encore qu'il est élu régulièrement depuis 2002, il y a 6 ou 7 élections qui, oui, qui ont été globalement démocratiques. Bon,
oui.
Mais ça, c'est une parenthèse. Bon, évidemment, on comprend que la France rappelle son ambassadeur. C'est pas un langage normal de relations diplomatiques. C'est des façons un peu à la trimpe, etc. Ça, aucun
oui,
doute.
Oui.
Bon, là-dessus, en revanche, moi, je trouve que le propos d'Emmanuel Macron, qui dans un premier temps sur le séparatisme avait tenu un discours équilibré, son discours n'est plus du tout équilibré. Pourquoi ? Pour moi, pour deux raisons, c'est que il parle de s'engager pour les caricatures.
Oui.
Je pense qu'il aurait mieux fait de s'engager pour la liberté d'expression contre toutes les religions et pas seulement
oui.
contre ce qu'avaient fait tous les présidents de la République précédents, qui toujours prenaient soin d'avoir un discours équilibré sur la laïcité. Respect du droit de critiquer toutes les religions. Et je note simplement que, par exemple, quand un dieudonné dessine des caricatures antisémites, il est condamné, et Dieu merci, heureusement.
Oui.
Et évidemment, je soutiens totalement le fait que dieudonné soit traduit devant les tribunaux, mais c'est des caricatures donc qui ne participent pas à la liberté d'expression.
Pardon Nicolas Beau, mais ça n'a rien à voir. Le droit au blasphème, ça n'a rien à voir avec dessiner des caricatures antisémites. On ne va pas faire ce débat-là ce soir, mais la question qui est posée ce soir, c'est faut-il craindre une forme d'influence de la Turquie par les réseaux turcs au sein de la société française. On sait l'importance des réseaux turcs en France notamment, y compris d'ailleurs religieux, hein, on l'a vu avec un certain nombre d'événements. Est-ce qu'il faut craindre une forme d'entrisme, François Hesbourg, en France de la part du gouvernement turc ?
De l'entrisme, il y en a, on le voit dans la politique de financement de certaines mosquées dans l'est de la France notamment, mais je ne pense pas qu'Erdogan fasse une effet de la France, sa cible privilégiée de principe en Europe. Il se trouve tout simplement que c'est la France qui fait obstacle en
oui.
ce moment en Méditerranée orientale aux ambitions énergétiques, stratégiques et d'une certaine manière religieuses dans cette région, la France ayant décidé de défendre la Grèce et Chypre, qui
oui.
sont des membres de l'Union européenne. Et c'est assez vraisemblablement la présence des moyens militaires français et ceux de quelques autres pays occidentaux qui a, pendant un certain temps, convaincu les Turcs de ramener au bercail leur navire de forage,
oui,
mais qui est revenu sur zone. On,
oui.
on est dans quelque chose où la dimension religieuse, qui est certes très importante pour Erdogan, mais la dimension religieuse n'est pas la seule dimension de ce
oui.
qui est en train de se passer.
Mais je vous pose la question, parce que tout à l'heure on entendra les archives d'Europe 1 dans notre séquence, le jour où le Premier ministre turc était présent à la marche du 11 janvier 2015, après les attentats de Charlie Hebdo, pour défendre aussi la liberté d'expression. Donc, il y a quand même un virage qui est en train de s'opérer de la part d'un certain nombre de pays du monde arabe. Et je vous posais la question de l'entrisme de la part de la Turquie, parce que c'est la puissance étrangère la plus investie dans la gestion du culte musulman en France, qui contrôle la moitié des
oui,
300 imams détachés par des pays étrangers,
attention,
alors que les Turcs ne représentent que 10% des musulmans du pays.
Attention, justement, la Turquie n'est pas un pays arabe. Elle n'est pas un pays arabe.
Oui.
Et
du monde
pas,
musulman, pardon.
Oui, mais justement, on a parfois un peu tendance à confondre les différents registres. Mais je voudrais, parce que j'ai le micro, dire un mot sur le boycott dont Frédéric Ancel
oui.
a excellemment parlé. Mais il y a une chose qu'Erdogan, je crois, a insuffisamment appréciée, c'est que lorsqu'un État, et Erdogan est le président de la Turquie, ce n'est pas une ONG, Erdogan, a dit qu'il faut bloquer les produits français. Là, ce n'est plus une agression contre la France seule, c'est une agression contre l'Union européenne tout entière, parce que le commerce extérieur est une compétence de l'Union.
D'ailleurs, on a vu le soutien de Mme Merkel.
Et l'Union a soutenu Macron très clairement hier, après qu'il ait rappelé notre ambassadeur. Autrement dit...
Et la Turquie est le 15e client de la France avec plus de 14 milliards d'échanges.
Et surtout, la zone, l'Union européenne, c'est le premier partenaire commercial de la Turquie, très loin devant les autres. Alors si Erdogan commence à se friter avec l'Union européenne, l'économie turque, déjà très mal en point, comme celle de malheureusement la plupart des pays, là pour le coup, ils ne se sortiront pas du trou dans lequel Erdogan est en train de les pousser.
Alors Frédéric Ancel, réaction sur cette même question, le rôle de la Turquie en France, est-ce qu'il s'agirait aussi pour le président Erdogan de prendre la main en quelque sorte du destin des musulmans et d'apparaître comme le protecteur? C'est ce qu'affirme par exemple l'Institut Montaigne dans un rapport récent.
Oui, je suis assez d'accord avec cela. Je pense qu'il y a deux branches en réalité, ou deux angles plus exactement empruntés par le président Erdogan. D'abord, un angle politique, devenir en quelque sorte le sultan, c'est-à-dire dans cette espèce de politique néo-ottomane visant, bien sûr, non pas à recréer l'Empire ottoman, je dis bien sûr parce qu'il sait qu'il n'en a pas le rapport de force favorable, mais en tout cas une zone d'influence qui de près ou de loin peut rappeler celle que fut l'Empire ottoman, mais cela passe aussi par, et c'est l'autre angle, l'autre dimension que se donne M. Erdogan, c'est être finalement le calife, c'est-à-dire le protecteur, vous avez très bien employé ce terme, l'Institut Montaigne aussi, de l'ensemble du monde musulman sunnite. Et de ce point de vue-là, je reprends le mot très juste de François Hesbourg, il y a une vraie concurrence, d'abord entre la Turquie et d'autres États musulmans, on pense bien évidemment à l'Arabie Saoudite, mais on pense aussi aux États arabes du Maghreb, dont les ressortissants sont plus nombreux sur l'ensemble de l'Europe du Nord-Ouest. Je passe bien évidemment sur le cas de l'Allemagne, qui est un cas très différent, voilà, qui compte davantage de gens d'origine turque, mais pour les autres pays, notamment la France, il y a une vraie concurrence entre, effectivement, la Turquie et ses pays arabes, et je pense qu'en effet, on peut parler d'un levier, c'est-à-dire que M. Erdogan est très embêté avec ce discours de M. Macron, notamment lorsqu'il s'agit de surveiller de manière beaucoup plus active les financements des mosquées, parce que là, on a affaire effectivement à un levier à la fois politique et religieux, en faveur du pouvoir à Ankara.
Oui, bien sûr, et un levier d'influence aussi. On se retrouve dans quelques secondes, 19h40, et on évoquera les conséquences sur les menaces contre les intérêts français de ces prises de parole des dirigeants étrangers. À tout de suite.
Europe Soir, le 18-20, Julien Bugier.
19h42, on est toujours avec le débat du Club des Idées. On s'intéresse ce soir à cette fronde anti-blasphème, d'une certaine manière, qui monte donc dans les pays musulmans, à commencer par la Turquie. Tiens, je voudrais qu'on dise aussi ce soir un mot du Qatar, pays auquel on a déroulé le tapis rouge. Outre le PSG, le Royaume détient en France la chaîne Bein Sport, les hôtels de luxe, le Martinez, le Carlton à Cannes, le prix de l'Arc de Triomphe. 24 avions Rafale ont été vendus au Qatar. Le Qatar est aussi présent dans des compagnies très importantes comme Total, Vinci, Veolia, LVMH, Vivendi et j'en passe. Et le Qatar maintenant appelle au boycott des produits français. Est-ce qu'on a été trop naïf avec le Qatar? Qui veut répondre? Nicolas Beau.
Je pense que les relations étaient sous Sarkozy excellentes. Aujourd'hui, le Qatar est concurrent avec l'Arabie Saoudite et les Émiratis. Mais en termes d'influence sur l'islam de France, je pense que des pays comme les Émiratis, les Saoudiens, ont beaucoup plus financé les mosquées en France et ont envoyé beaucoup aussi d'imams salafistes toutes ces dernières années et depuis les années 90-95 par rapport à ce qu'a pu financer la Turquie, qui, comme on le rappelait, est en situation économique difficile. Et pendant deux ans, entre 2017-2019, le Centre français du culte musulman, qui est l'instance représentative, même si les élections ne sont pas totalement démocratiques, a été dirigé par un imam turc. Les choses se sont bien passées et il a cédé la place à un imam marocain. Et personne ne le lui a reproché dans nos services de sécurité, ne l'ont pas reproché d'avoir favorisé un islam salafiste ou pire.
Vous dites attention avec les Qataris, il y a un activisme fort d'un islam plutôt fondamentaliste en France, mais pas vraiment avec la Turquie.
Alors ça a eu lieu avec le Qatar et aujourd'hui ça a plutôt lieu avec des pays qui sont par ailleurs alliés diplomatiquement de la France. C'est pour ça que le gouvernement français vise la Turquie et le Qatar avec lequel aujourd'hui Jean-Yves Le Drian et Macron s'entendent mal. Et Et ils visent donc ces pays-là qui, sur le plan diplomatique, comme on l'a rappelé, sur le dossier libyen, le dossier syrien, l'Azerbaïdjan, la Méditerranée orientale, etc., sont effectivement dans une guerre diplomatique, oui, avec la France. Mais je voudrais rappeler que, bon, bien sûr, c'est un pays expansionniste parce que Erdogan a préempté totalement l'héritage nationaliste de la date turque. Pas évidemment son héritage laïque. Bon, et de ce fait, il veut reconstituer l'Empire ottoman. Et nous, ça n'arrange pas les intérêts français. Donc, qu'on le contrecarre, ça ne me choque pas. Oui. Mais qu'on le désigne comme l'ennemi public numéro un, certainement parce qu'il a une diplomatie offensive. Et pour finir, je trouve qu'on devrait quand même être modeste, parce que quand on voit ce qui se passe au Mali, on a quand même occupé le Mali depuis 2013 avec 4000 soldats français. Aujourd'hui, c'est les djihadistes qui sont en train de prendre le pouvoir. Donc,
François Hesbourg,
un peu de modestie.
François Hesbourg, conseiller spécial de la Fondation pour la Recherche Stratégique et auteur du Temps des Prédicateurs.
Des prédateurs. Le prédicateur, c'est pas
parce
moi.
Qu'on est dans le sujet, les prédicateurs. Aux éditions Odile Jacob, Le Temps des Prédateurs. François Hesbourg, même question, a-t-on été trop naïf avec des pays, alors on évoquait la Turquie, mais le Qatar, à qui on a, déroulé le tapis rouge.
Avec le Qatar, comme vis-à-vis d'autres pays du Golfe, on a été naïf dans le sens où on a été trop gourmand. Sous le président Sarkozy, l'influence qatari se manifestait de toutes les manières possibles et imaginables.
Qatar qui a quand même été soupçonné de financement de terrorisme. Hein.
Ah ben, le Qatar qui finançait, ils le font un tout petit peu moins aujourd'hui, mais effectivement le Qatar... c'est pas un enfant du bon Dieu, hein.
Oui.
Le Qatar n'est plus, entre guillemets, notre émirat préféré. Et par ailleurs, le Qatar a trouvé, avec la Turquie d'Erdogan, un grand protecteur. Il y a une base militaire turque au Qatar. Et ce sont des développements relativement récents. Et l'influence turque en France... je suis assez d'accord avec ce qui vient d'être dit. Et il y a une barrière pour les Turcs, c'est simplement la langue. L'immigration de première, deuxième, troisième génération en France ne parle que fort peu le turc. Il y a pas mal de Turcs en Alsace, dans le Grand Est, quelques autres micro-régions. Et j'ajoute aussi qu'effectivement, et la Turquie utilise le financement des mosquées comme un outil d'influence,
oui,
d'influence d'État, alors que les prédicateurs saoudiens, qataris, émiriens et ainsi, oui, de suite s'inscrivent plutôt dans un projet culturel, idéologique, religieux. Et effectivement, alors, du coup, souvent extrémistes.
Il nous reste quelques instants, Frédéric Ancel. Je voudrais votre avis sur les conséquences de ces attaques contre des intérêts français de la part de ces pays. Est-ce qu'il peut y avoir, au bout du bout, des menaces sur les intérêts français, mais des menaces, j'entends, terroristes, hein. Les services de renseignement nous disent aujourd'hui, depuis quelques jours, la menace est XXL, pour reprendre les mots utilisés.
Oui, mais ça la menace, bien sûr. Mais j'ai envie de vous dire que c'est pas nouveau. Et les terroristes islamistes n'ont pas attendu le discours du président Emmanuel Macron pour détester la France, pour plein de raisons qui, à leurs yeux, sont extrêmement bonnes et qui renvoient à la Révolution française, qui renvoient à un grand complot judéo-maçonnique qui tiendrait
la France. Mais ça crée un contexte tout de même.
Oui, non, mais écoute, oui, mais enfin, vous savez, quand vous voulez tuer votre chien, vous dites qu'il a la rage. C'est-à-dire, oui, que les islamistes ont toujours détesté la France au dernier degré, mais d'abord parce qu'elle était laïque, hein, avant qu'elle n'intervienne sur tel et tel théâtre d'opération. Et puisque vous ne m'avez pas posé la question, je vais quand même y répondre. Oui, je pense qu'on a été beaucoup trop naïf avec le Qatar, dont je rappelle que la famille régnante est wahhabite, c'est-à-dire ultra conservatrice, sinon, oui, tout à fait islamiste. Et j'ajoute, si je peux me permettre, que...
Allez-y.
Je suis en désaccord avec Monsieur Beau. L'actuelle politique très expansionniste de Monsieur Erdogan ne correspond pas à celle de son prédécesseur Atatürk, qui lui souhaitait qu'il n'y ait aucun souci à la frontière. C'était sa politique officielle. Et ses successeurs ont été très pro-occidentaux et ne sont pas sortis de leurs frontières. Donc là, on est sur un véritable néo-ottomanisme, comme je le disais tout à l'heure. Et de ce point de vue-là, je crois que c'est François Hesbourg qui l'a rappelé, effectivement, dans le cadre de l'OTAN, mais également sur la question du Caucase, puisque la France est quand même amie de l'Arménie et la France a reconnu le génocide arménien, ce en quoi, bien évidemment, M. Erdogan s'oppose avec un négationnisme extrêmement agressif. Hein. Et puis enfin, la lutte contre Daesh. La France y a pris sa part, très importante d'ailleurs, tandis que la Turquie, le moins qu'on puisse dire, et le Qatar d'ailleurs, le moins qu'on puisse dire, c'est que ces deux États étaient quand même extrêmement ambigus.
Merci Frédéric Ancel, merci à tous les trois d'avoir participé à cet échange sur l'importance de ces débats entre la France et un certain nombre de pays musulmans. À suivre dans quelques secondes des archives d'Europe Soir, très éclairantes, car on va revenir justement sur la marche du 11 janvier suite aux attentats de Charlie Hebdo, et à l'époque, il y avait les représentants de ces mêmes pays qui nous attaquent aujourd'hui. À tout de suite.